La série L'Église, la famille de Dieu. Et puis, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas touché à ce sujet. Et je révisais un peu cette semaine mes notes. Et j'ai dit ça, moi. Et j'ai oublié même ce que je prêchais. Wow! Le Seigneur m'a rappelé des choses, des belles choses qu'on a vues ensemble. C'est fou comment est-ce qu'on est vite pour oublier. On est des oublieux. Et la parole nous dit qu'on est comme celui qui se regarde dans le miroir, puis s'en va, puis oublie de quoi il a l'air. Fait que, je loue le Seigneur ce matin. Ce que je vais faire, je vais surtout réviser ce qu'on a vu dernièrement. En commençant par notre verset thème, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Qui était là la semaine passée? Vous avez vu que notre frère Joël a parlé du fait qu'on est pèlerin et qu'on est citoyen du ciel. Il a pris ce verset-là. C'est beau comment le Seigneur orchestre les choses, hein? Quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur amène un enseignement dans ta vie, là, je fais une parenthèse. Il te dit quelque chose de quelqu'un, il te dit quelque chose d'une autre façon, d'une autre personne ou d'un autre livre. Ah, tiens, je suis en train de lire ça. Ah oui, j'entends ça à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui veut mettre son doigt sur quelque chose. Parce que Dieu répète souvent, il confirme sa parole. Fait que quand. Tu entends la même chose là, de différentes sources, c'est que Dieu veut te parler. Fait que là, j'ai vu ça, ce verset-là, il y a la semaine dernière. Je dis, ah, Seigneur, ça veut dire, c'est parce que tu confirmes ce que tu veux nous enseigner. Amen. On a vu plein de choses. On a vu. Peux-tu m'apporter mes feuilles, s'il te plaît? On a vu plein de valeurs que Dieu, en tant que père de sa famille, trouve précieux pour ses enfants. Dieu s'intéresse activement aux relations entre ses enfants. Ces relations revêtent d'une grande importance pour lui. Et comme on a vu, la façon dont on se traite, Jésus l'a déclaré, c'est la façon qu'on le traite lui. C'est la façon dont je te réponds, la façon dont je te parle, la façon dont je porte attention, bien, c'est à lui que je fais ces choses-là. C'est ce qu'il dit. Et la vie dans la famille de Dieu ne consiste pas premièrement à acquérir des connaissances bibliques, c'est-à-dire en priorité, mais à se laisser transformer à la ressemblance de Jésus. On a vu que Jésus a dit, prends mon joug, prends mon attelage sur toi, apprends de moi, mets-toi à mon école, reçois mes instructions. Et à date, dans cette deuxième section sur la série de la famille de Dieu, on a vu les valeurs importantes suivantes. Je vous le rappelle, moi-même, il a fallu que j'y pense. On a vu l'accueil, s'accueillir mutuellement, comme Christ vous a accueillis. Pour la gloire de Dieu. Hein? C'est ça qu'il dit. Accueillez-vous les uns les autres. Comment Christ t'a accueilli? Tel que tu étais, hein? Avec toutes tes bosses et tes bobos. Et moi, j'ai de la misère à t'accueillir parce que tu ne penses pas comme moi. Ou tu fais des choses qui m'énervent. On dit ça en québécois. M'énerver m'énerve. Ça, c'est pire encore. Mais accueil. Après ça, on a vu persévérance avec Étienne. Hein? Quand les choses sont difficiles, je m'engage à persévérer dans l'amour. C'est facile quand c'est facile. Ça va bien quand c'est facile. Mais c'est quand les relations difficiles qu'il faut persévérer. Et Dieu, c'est une valeur pour sa famille. Dans nos relations, qui aiment voir. Parce que Dieu, est-ce qu'il a été persévérant avec toi Il a été patient avec toi. Il a été patient avec moi. Oui. Oui. On ne peut pas dire à nos frères, ah, lui, là, je ne suis plus capable de le sentir, ou elle, là, fini. Non. Non. Ça ne marche pas. Dieu ne cautionnera pas ça, comme dit notre frère, là, Ngoran. Dieu ne cautionne pas ça. Si tu décides de faire ça, bon, on s'entend que ce n'est pas pour une raison de péché récalcitrant, là, ou un manque de repentance, mais que tu en as marre de cette personne-là, et tu te détournes de cette personne-là, Dieu ne cautionne pas ça. Et tu es en rébellion contre Dieu quand tu fais ça, quand je fais ça. On a vu aussi le principe de l'édification, que nous sommes appelés à s'édifier les uns les autres. Et on a vu qu'est-ce que c'est l'édification. Ce n'est pas transmettre mes convictions. Ce n'est pas transmettre, étaler ma connaissance. Non, c'est de viser, comme Paul visait, que Christ soit formé en toi. Paul dit, je travaille jusqu'à le Christ soit formé en vous. Ça, c'est l'édification. Le but visé par Dieu, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et on a un rôle à jouer là-dedans. Dans nos relations, est-ce que nos relations, on vise ça? On vise cette édification-là. Je vise à te bâtir, à t'aider à ressembler à Christ. Ou je suis plutôt centré sur moi. Et on a vu l'humilité. On a vu l'humilité, on a passé pas mal de temps sur l'humilité. On pourrait passer encore beaucoup de temps sur l'humilité. On a vu que l'humilité, on a vu que l'humilité, c'est premièrement, c'est pas une définition par défaut, hein, que c'est pas le manque d'orgueil, comme l'amour, c'est pas le manque de haine. C'est des choses qui vont pas ensemble, ce sont des contraires, mais ça se définit pas par son contraire. Ça se définit par le positif et non le négatif. Donc, l'humilité, ce n'est pas que l'absence de l'orgueil, c'est un abaissement volontaire. Rappelez-vous de ça. C'est un abaissement volontaire. Premièrement, en rapport avec Dieu. Quand on s'approche de Dieu, « Seigneur, je m'humilie devant toi. Je m'abaisse volontairement devant toi. » Parce que notre cœur est orgueilleux par nature. Et dans nos relations, nos rapports mutuels aussi. L'humilité est nécessaire dans nos rapports entre nous. Ça fait partie de ce que Dieu regarde dans sa famille. Il dit, ah, ça, j'aime ça, l'humilité. Ça, j'aime ça, voir ça. Ça permet à ce qu'on soit enseignable, l'humilité. Et quand même, on recherche d'être enseigné et même repris quand il le faut. C'est nécessaire. Et nous avons considéré que c'est d'accepter d'apprendre des autres, accepter même rechercher la correction. On a vu que l'étudiant apprend l'information versus l'apprenti suit une formation. Nous ne sommes pas que des étudiants, nous sommes des disciples. Amen. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui fait juste apprendre des faits. Il apprend à être comme son maître. C'est différent. Ça implique le caractère. Ça implique le cœur, les motifs. Qu'est-ce qui anime mon maître? Qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça? Bien, moi, je veux ça. Voyez-vous? C'est des questions de cœur, pas juste de connaissance. Et comment il fait? C'est aussi important de qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, le maître? Je veux le faire aussi, mais je veux le faire de la façon que le maître le fait aussi. Je peux parler en vérité, c'est ce que Jésus faisait, mais si je n'ai pas l'amour, je ne le fais pas de la façon que Jésus faisait. Donc, la façon qu'il le fait. Donc, je suis comme un apprenti de Jésus. Nous sommes des apprentis, ça prend l'humilité pour ça. Mettez-vous sous mon joug. Hein? Bon, ensuite, on était rendu à l'unité et la collaboration en tant que valeur, en tant que aspect important dans nos relations, dans notre vie de famille de Dieu, puisque nous sommes la famille de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut encore? Il veut voir sa famille unie et collaborant ensemble. Collaborant ensemble. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens 4. On va relire quelques versets qu'on a vus et on va progresser un petit peu dans le temps qui nous reste, OK? Paul dit, Éphésiens 4, verset 1. Je vous lis dans la version sommaire encore une fois. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc, je vous exhorte, c'est un encouragement, instamment, de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Sois toujours humble, aimable, doux, patient, supportant les uns les autres avec amour. » Je vais juste arrêter ici 2 minutes, là. Comment on évalue si une église ou une assemblée, c'est une église de Dieu? Par ses croyances? Oui, c'est important les croyances. Les doctrines essentielles sont très importantes. Mais vous pouvez aller dans une église qui a toutes les bonnes doctrines. Mais s'il n'y a pas ça, là, Dieu n'est pas honoré. Dieu n'est pas honoré dans une église chez qui on ne trouve pas ces éléments-là, qui sont des éléments relationnels. Encore, je le répète, Dieu est intimement intéressé à nos relations. Je m'excuse, là, c'est tannant, mais c'est vrai. Pourquoi c'est tannant? Parce que les relations, pour nous, c'est difficile. Pas vrai? C'est difficile, les relations. On aime bien mieux se concentrer sur la connaissance. Puis là, on se distance des autres parce qu'on est dans la connaissance, on est dans l'accumulation des vérités. Ah, moi, j'ai découvert ça. Ah oui, ah, moi, j'ai découvert ça. OK, parfait. Puis on discute des choses intellectuelles. Mais on n'a pas de relation. Mais Dieu est intimement intéressé à nos relations. Et Paul dit dans verset 3 maintenant, « Efforcez-vous de conserver l'unité. » Bon, ici un autre élément que Dieu veut voir dans son Église, dans sa famille. L'unité que donne l'Esprit. Premièrement, c'est l'Esprit qu'il donne. Ça veut dire que Dieu veut ça. On est unis. On est unis. Et dans la paix qui vous lie les uns aux autres, et voici les bases de notre unité, on a vu ça la dernière fois, les bases de notre unité, un seul Seigneur, un seul corps, pardon, verset 4, un seul corps, un seul esprit, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne en tous et qui agit par tous et qui est en tous. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses ce matin, Père, parce que nous sommes tellement vite à oublier ces choses, Père. Et merci parce que ta parole, c'est la vérité. Et tu nous éclaires par ta parole, Seigneur. Et comme la pluie et la neige qui descendent du ciel et qui ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir fait germer la graine et donner du pain à ceux qui mangent, elle ne retournera pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Merci, Père, pour cette parole. Au nom de Jésus, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu. Dieu t'accorde à toi, son enfant, le privilège de contribuer à l'unité et à la croissance de sa famille à travers l'emploi de tes dons, en collaborant avec les autres, tout en évitant d'imposer tes objectifs personnels. C'est contre nature. C'est contre nature, ça. Ça vient de l'esprit, ça. Parce que la nature humaine, partout où est-ce que je vais, c'est quoi que la nature veut faire, la nature humaine? Elle veut accomplir quoi? Ses desseins, ses projets, ses objectifs personnels. Son petit royaume de un. Laurent est en train de lire un livre là-dessus, puis il dit, il parle l'expression « ton petit royaume de un ». Mais quand tu es dans l'Église, là, ton royaume de un, là, il faut que tu le laisses à la porte. Et pas seulement dimanche, mais toute ta vie. On a entendu ce matin, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand on fait partie d'une église, quand on fait partie d'une famille, il faut qu'on prenne nos objectifs personnels et on les mette de côté. Et c'est maintenant, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Amen? Donc, voici une vie digne de la famille de Dieu, on a vu. Paul, il dit, je vous exhorte à vivre une vie digne de la manière dont vous avez été appelé, digne de l'appel qui vous a été adressé. Et on a vu que ça inclut l'unité, ça inclut tous ces aspects relationnels qu'on trouve tellement difficiles, qu'on est porté à mettre de côté pour se concentrer sur les connaissances. Et c'est quoi de manière digne? On a vu que c'est dans le grec, ça veut dire, c'est le mot axios, qui est une balance. Donc, tu as reçu quelque chose et ta vie doit être en balance avec cette quelque chose-là. C'est quoi que tu as reçu? Un cadeau immensément grand, le rachat de ton âme, la libération de l'esclavage, être adopté dans la famille de Dieu, faire partie de son règne. Tout ça, c'est un poids qui ne se mesure pas. Et dans l'autre plateau, qu'est-ce qu'on fait souvent? On vide nos poches de nos petits changes. Non. Non. Je me permets de ne pas être en relation avec les frères et sœurs. Non. Ça, ce n'est pas de marcher d'une manière digne. Ça ne correspond pas au poids de la valeur de quelque chose que Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie, là. Je me permets de venir à l'Assemblée le dimanche, mais je ne suis pas en relation avec personne, puis le restant de la semaine non plus. Non! Ça ne marche pas, ça. C'est pas en rapport. La balance va faire ça, mais elle va toujours faire ça parce que le cadeau qu'on a reçu, c'est infiniment grand. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Sais-tu que tu mettes quelque chose pour que ça équivaut? Non. Mais au moins, mets tout ce que tu as. Vous me suivez? Si tu es pour acheter quelque chose là, de précieux, puis le vendeur dit, ben c'est sans prix, là. Ça n'a pas de prix, c'est hors de prix. Bon, ben regarde, t'accepterais-tu, je vais regarder compter, une pièce est 35. Non, non. Si pour te le donner, donne-moi au moins tout ce que tu as. C'est ça que Dieu veut. Vous me suivez? Donne au moins tout ce que tu as. Tu ne seras jamais capable de payer. Ce n'est pas l'idée de payer, mais c'est de vivre une vie qui correspond avec ce que tu as reçu. Qu'est-ce qui correspond? Conserve l'unité. Marche dans l'humilité. Marche dans l'accueil. Marche dans la persévérance dans tes relations. Aime. Sers. Toutes ces choses-là. Le mot efforcer veut dire s'empresser. Puis, on a vu les bases de notre unité. Hein? Ce n'est pas avoir la même conviction sur les dons spirituels. Ce n'est pas avoir la même conviction sur la venue du Seigneur Jésus. Ce n'est pas avoir la même conviction sur le calvinisme. Non. C'est un seul corps, un seul esprit. Une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père. Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, incluant toi, qui agit par tous, pas juste toi, et qui est en tous, pas juste toi. Donc ça, c'est les bases de l'unité. Imaginez qu'on a un nouvel entraîneur de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal. Et il lui vient une brillante idée. Il veut aller recruter un jeune joueur de golf talentueux pour le transformer en franc-tireur pour compter plus de buts pour l'équipe, en se disant qu'il n'y a personne comme eux qui ont du visou, les golfeurs. S'ils sont capables de rentrer leur petite balle dans un petit trou à 10 mètres de distance, ils seront sûrement capables de faire entrer une rondelle dans un but d'un mètre carré. Heureusement, il en trouve un qui signe un contrat. Le jeune a déjà fait du patinage artistique, donc le coup de patin est déjà très bien, mais il n'a jamais joué au hockey. Lors du premier match, à chaque fois qu'il monte sur la patinoire, on le voit qu'il se poste en avant du but et qu'il attend pour recevoir la rondelle pour tirer dans le but. Qu'est-ce qui se passera? Premièrement, il va être callé hors jeu. Mais est-ce que ça va être un succès pour l'équipe? Ben non! Pourquoi pas? Parce que le hockey, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas un sport individuel, alors que le golf est un sport individuel. Voyez-vous? On vit dans un monde de plus en plus individualiste, toi et moi, là. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on devient comme des golfeurs. On joue notre petite vie, là. On joue notre partie à nous tout seul, là. Puis, on fait un bon coup, on est content. On fait un mauvais coup. Puis là, on vit comme ça. Là, tu arrives dans l'église. Tu veux continuer de vivre comme ça? Non. L'église est une équipe. Est-ce que tu acceptes de faire partie d'une équipe? Est-ce que tu veux jouer en équipe? La formation au hockey, comme au football américain, au football européen, c'est la formation qui réussit à jouer le mieux en équipe qui gagne la grande majorité du temps, pas vrai? À talent égal, là, c'est l'équipe qui joue le mieux en équipe. Et souvent, ça arrive que même une équipe moins talentueuse va gagner parce qu'il joue mieux en équipe. Oui, ça prend des joueurs de talent, mais ça prend l'équipe. Et l'enjeu pour nous en tant qu'Église, c'est ça, on vit dans une société individualiste qui nous influence. Et ce matin, on veut considérer que Dieu nous appelle à jouer en équipe, à faire partie d'une équipe. On va poursuivre un petit peu. Verset 7, Éphésiens 4, verset 7. Cependant, ou dans la version « mais », chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. OK. Pourquoi « cependant » ou « mais » C'est une conjonction qui lie ce qui vient d'être dit à ce qui va venir, une conjonction de contraste. « Cependant » ou « mais » va mettre deux vérités en contraste. Alors, c'est quoi le contraste? Bien, il vient de parler de l'unité, de l'ensemble. Mais chacun, voyez-vous, chacun, ça c'est l'individu, voyez-vous? Donc, il parle de l'unité, ça c'est l'ensemble, le corps. Mais ça l'amène à parler que chacun de nous a reçu de la part de Dieu une grâce. Une grâce, et c'est quoi cette grâce-là? C'est la grâce que Christ lui donne, un don que Christ lui fait pour participer à son œuvre. Donc tantôt, on parlait justement que l'Église, c'est comme une équipe sportive, et il faut qu'on joue ensemble, il faut qu'on participe. Mais c'est ça, comment tu vas participer? Dans une équipe, c'est pas tous des joueurs pareils. Ça te prend un gardien de but au hockey. Lui, il a un talent précis pour être dans les buts. L'autre qui joue en avant, c'est un autre talent. C'est complètement différent. voyez-vous? Mais ils jouent ensemble, ils collaborent ensemble et ils jouent pour le même but. Donc, c'est ça que Paul dit. Il dit, on est appelé à l'unité, on est appelé à conserver cette unité-là. Nous sommes, nous faisons un, et ça, c'est très, très important à comprendre. Mais, cependant, chacun a reçu un rôle à jouer. Et c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Reçu de la part de Dieu, que Christ lui donne à jouer dans son œuvre. Donc, Christ nous donne des dons pour participer à cette unité-là, et ces dons découlent de l'œuvre de Christ. Et c'est ce qu'il va dire ici au verset 8 et 9. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait don aux hommes. Or, que signifie « il est monté » Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur les terres ou dans les régions inférieures de la terre. On n'a pas le temps ce matin de développer ça, ça sera pour la prochaine fois. Mais je veux juste que vous remarquiez que les dons sont le résultat de l'œuvre de Dieu, de Christ sur la croix. Les dons découlent de son œuvre. Et c'est ça qu'il dit dans versets 8 et 9. Parce qu'il vient dire, on a chacun reçu une grâce, un don, et ça l'amène à parler d'où vient ce don-là. Ça vient de Christ. Mais oui, mais qu'est-ce que Christ a fait? Il est monté, et c'est ça qui a fait qu'il a pu donner des dons, mais s'il est monté, c'est parce que premièrement, il est descendu. Vous comprenez sa logique, là? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que tu as reçu un don. Jésus-Christ est descendu, il est monté, il a amené des captifs et il a fait des dons. Bon, la prochaine fois, on va voir plus en détail qu'est-ce que ça veut signifier tout ça. Mais ensuite, il va continuer à parler au verset 11 du fait qu'il donne des dons, mais c'est des dons de personne pour commencer. On va voir ça la prochaine fois. OK? Oui? Oui, c'est vrai. C'est des choses possibles. On va regarder ça dans les prochaines semaines, puis peut-être au mois de septembre. Donc, chacun de nous a reçu la grâce selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas reçu de don. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas reçu de don. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas reçu de don. OK? Combien de fois je dois le répéter? Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas reçu de don. Je le répète parce que je sais par expérience qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils n'ont pas de don. Bon, les autres, ils ont un don, mais moi, je n'ai pas de don. Es-tu enfant de Dieu? Oui. Ben, tu as un don. À chacun, c'est marqué. À chacun. Dieu a fait de toi son enfant et Christ t'a intégré dans sa famille par son sacrifice et ce qui en résulte, c'est qu'il t'a donné au moins un don. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas découvert encore, mais sinon, je t'encourage à commencer à prier pour le connaître. Parce que ce don-là, on a besoin dans l'Église. Ce don-là va contribuer à l'unité, va contribuer à l'édification. C'est très important. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. Seigneur Dieu, merci pour ce matin, pour ce temps béni en ta présence. On a été vraiment encouragés et ébahis devant ton œuvre dans la vie de notre frère. Et comment tu es grand, Seigneur. Comment tu es bon. comment tu es bienveillant. Merci, Seigneur. Et on désire se donner à toi tout entier. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas nous donner tout entier à toi, de retenir, de te donner notre petit change. Seigneur, tu nous as libérés. Tu nous as rachetés, comme on a entendu. Rachetés, pas n'importe d'où, d'un royaume de ténèbres, du règne de Satan, de la mort assurée. Tu nous as rachetés de l'esclavage. Tu nous as rachetés pour faire partie de ta famille. Merci Seigneur. Béni soit ton nom et continue ton œuvre dans nos vies pour la gloire de Jésus. Amen.